Merci. Je voulais simplement apporter l'opinion d'un régulateur. Pour un régulateur, le numérique est une question qui ne se pose même pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, les régulateurs ont géré la pénurie. Donc, mettez-vous maintenant à la place de celui... Si on régulait le monde de la presse, est-ce que vous trouveriez normal qu'un État vous dise « tu peux diffuser ton journal sur le territoire du département, mais pas dans la commune d'à côté. Tu ne peux pas aller plus loin que 25 km. » C'est ce que nous faisons en FM, bon gré mal gré, parce qu'il n'y a justement pas les ressources pour pouvoir permettre à tout le monde de diffuser sa parole où il le veut. Le numérique offre cette possibilité. Donc, je crois que le régulateur n'a même pas le choix de dire « je veux ou je ne veux pas », il doit y aller. Justement pour une question de pluralité de l'opinion, pour donner à chacun la possibilité de diffuser sa parole où il le veut. Ce sera peut-être... Et je pense que la technologie, là, apportera aussi des solutions pour des petites stations qui n'ont pas les moyens, justement, ni la volonté de diffuser leur programme dans une grande, sur une vaste étendue. Mais il faut bien se dire aussi qu'au niveau coût, si maintenant une station FM a des coûts X, ces coûts seront divisés par 2, par 3 pour la même étendue, justement parce qu'elle devra se fédérer, mutualiser les coûts avec les autres participants sur un multiplex. Le coût pour les récepteurs, je ne pense pas effectivement qu'en Afrique, le numérique soit d'actualité. Là, les problèmes sont tout à fait différents. En Europe, en revanche, penser que, justement parce qu'il n'y a pas de pénurie de FM, je pense, là, les problèmes sont d'autre nature, mais pas de saturation du spectre. Mais un récepteur DAB, ça coûte entre 25 et 30 euros. En Suisse, il y a des centaines de postes différents, du bas de gamme jusqu'au très haut de gamme. Donc je ne crois pas vraiment que maintenant ce soit demander un sacrifice incroyable aux consommateurs que de dépenser 30 euros pour pouvoir suivre son programme. Et dernière petite remarque, on parle souvent justement des réticences des stations qui sont en FM. Je les comprends, spécialement les stations commerciales, parce que tout autre paysage numérique sera forcément moins bon que le paysage FM pour eux. Parce qu'ils devront, comme le disait Francesco, recommencer maintenant, tout sera remis à plat, ils auront une autre concurrence. C'est logique. J'ai une phrase en mémoire qui a été prononcée par le représentant des radios numériques allemandes qui disait « Si tu veux assainir un marais, ne demande pas l'avis des crapauds ». Et les stations en FM sont souvent moins... Les crapauds, elles se sentent très bien dans leur marais, elles ne veulent pas partager le gâteau. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait certaines réticences de la part des stations radio FM. Je crois qu'en tout cas, au niveau des régulateurs, il faut aider spécialement les petites radios à faire ce pas vers le numérique. Mais on ne peut pas s'arrêter maintenant à ces obstacles ou ces réticences de grands groupes qui estiment qu'il n'y a rien de mieux que la FM. Sinon, on serait toujours dans la télévision noir et blanc ou la vapeur. Quoi. Merci.
Merci Marcel Regnotto de l'Ofcom Suisse.
Étienne Damon. Je voulais juste dire que le téléphone portable aurait pu être une opportunité pour écouter la radio en Afrique. Sauf qu'il y a deux problèmes à cela. Les opérateurs de téléphonie mobile ne coopèrent pas, ça on le sait. Et donc, alors que le téléphone portable est en grande expansion en Afrique, et ça continue, on l'a pratiquement partout, on se rend bien compte que ça limite, alors que ça ne devrait pas l'être, donc la réception de la radio. Deuxième aspect aussi, même si le téléphone portable pouvait être exploité comme récepteur de radio, il faut un minimum d'éducation pour pouvoir choisir une station. Ce n'est pas le cas pour le transistor, il suffit de tourner le bouton, qu'on sache, on connaît en général sa radio et donc on tombe là-dessus et les dames ou les personnes des villages savent où il faut positionner l'aiguille pour pouvoir capter sa radio. Si on passe au numérique, évidemment, on aura une liste de 20, de 30 radios qui s'affichent quand on met quand on se connecte. Et il faudra donc savoir lire pour pouvoir choisir à quel niveau se situe la radio qu'on veut choisir. Et donc ça posera toujours un certain nombre de problèmes à ceux évidemment qui manquent d'éducation, et ils sont la majorité en quelque sorte.
Donc je dis bonjour à tout le monde, je m'appelle Mamdiak Wane, donc je suis le conseiller donc, du président du CNRA, l'équivalent du CSA au Sénégal. Bon, moi j'aimerais quand même dire une chose, c'est vrai qu'en Afrique on a des particularités, donc chaque pays a ses réalités, mais là je pense que nous parlons d'un concept qui dépasse un peu ces réalités, c'est un concept global. Okay, moi je pense que pour nous, en tout cas au niveau du Sénégal, la question du numérique est extrêmement stratégique. Parce que, bon, au Burundi, il l'a dit tantôt, si les Chinois sont là, ce n'est pas un hasard. Parce qu'aujourd'hui, on parle de modèle hybride, c'est-à-dire que les télécoms vont rencontrer l'audiovisuel. D'une manière ou d'une autre, il faudra que nous, qu'on se positionne en termes d'acteurs. Et je pense que par ailleurs aussi, en termes de coûts pour la diffusion, pour la radiodiffusion, autant pour la télé que pour la radio, on peut aussi régler beaucoup de problèmes. Parce qu'on a parlé de concept de mutualisation, qui sont aujourd'hui une opportunité véritable pour nous. Okay, parce que nous, aujourd'hui, grâce à un certain nombre de choses par rapport aux télécommunications, on peut résoudre des problèmes. En Afrique, il y a des gens qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas lire, mais qui savent utiliser un téléphone. Je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale dans tout. On vit effectivement, malheureusement, nous, de beaucoup de transferts de technologie. Mais par ailleurs, aujourd'hui, nous, on peut saisir aussi cette opportunité pour créer nos usages. Donc, il ne s'agit pas pour nous de quelque chose, je ne sais pas comment le dire. Pour nous, moi, je pense que pour, en tout cas, nous, au niveau du Sénégal, notre réflexion, pour nous, c'est une opportunité. Parce que les télécommunications, la radiodiffusion, ça va aller ensemble.
Thank you. The panel raised issues.
Vous avez soulevé toute une série de questions sur la taille ou la couverture du territoire des radios communautaires. En Irlande, en fait, on a tendance à couvrir des territoires un petit peu plus petits, hein, pour des raisons pratiques. Il est plus facile, en fait, hein, de travailler sur la bande FM qui dessert un certain territoire. Plus le territoire est grand, plus ça devient compliqué. Mais je dirais que la raison clé pour laquelle nous avons choisi, nous, de nous concentrer sur des territoires plus petits, et ce n'est pas une règle établie, hein, même loin de là, mais pas du tout. L'idée, c'est vraiment de garantir que la radio soit accessible au plus grand nombre. Plus la couverture est grande, moins de gens pourraient avoir accès. Et donc, l'idée ici, c'est de toucher par des plus petits studios toute une série de gens dans certaines zones géographiques, au cœur des villes notamment. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accès qui ait du sens, en fait, hein, pour les gens. C'est une question de proximité, finalement, et c'est ça qui est intéressant, justement, à constater à ce sujet-là. Alors, je crois qu'à un certain moment, finalement, la transition numérique, si toute l'Europe passe au numérique et au DAB, je crois que ce sera une question qu'il faudra probablement résoudre dans le contexte non seulement des communautés, mais par rapport à d'autres services aussi, parce que là, il va falloir probablement redéfinir la couverture. Va-t-on offrir un contenu local ou bien le contraire? Donc ça, je crois que c'est un vrai problème que nous n'avons pas encore résolu, et on commence. Je crois que c'est justement le début de ce débat, du moins en Irlande. David Domingo. Et je rajoute à cela que lorsqu'on réfléchit à la transition numérique en télévision en Catalogne, et lorsqu'on réfléchit à justement cette transition en télévision, elle a quasiment tué certaines stations. C'est une situation très, très difficile pour l'instant. Et j'aimerais vous avertir justement, ou bien attirer votre attention là-dessus. C'est lié vraiment à la taille de la couverture. on a élargi les couvertures en transition vers le numérique. Et donc, les liens entre la communauté et les services se sont distendus. De nombreuses personnes, finalement, se sont senties s'éloigner de ce service qui, auparavant, était très proche d'eux. C'est ça le plus gros problème. Le deuxième problème, c'est un problème financier de l'investissement dans des technologies qui permettaient le passage au numérique. Et les médias communautaires ont été durement touchés parce qu'ils ont dû, avec moins de ressources, assurer cette transition, garantir cette transition. Ce sont là des questions à garder à l'esprit. Si cette transition est prévue ou envisagée pour la radio également, je crois que les autorités de régulation, leur régulateur, doit également réfléchir aux difficultés que cela pourrait poser aux différentes communautés à cet égard. Et donc, il devrait pouvoir garantir que cette transition soit suffisamment appuyée dans son processus pour de ne pas faire d'une fantastique occasion un véritable problème.
Donc moi, je pense qu'on se confond. Parce que quand on parle de problème financier, c'est le problème financier du passage d'un système à l'autre. Marcel l'a dit très bien, une fois que le système sera en place, ça va coûter 2 à 3 fois moins cher. C'est un système qui est aussi beaucoup plus écologique. Parce que, je fais de nouveau l'exemple de la Suisse, le service public suisse, il y avait des statistiques ou des choses, une étude, pour couvrir le territoire suisse qui est particulièrement compliqué à cause de vallées, des montagnes, etc. Donc le service public utilise quelque chose comme 600 émetteurs, 600 et quelques émetteurs pour couvrir le territoire. Avec un système en DAB+, en numérique, il va en utiliser 130, 140, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, consommation en termes d'électricité. Coupé en 5. Donc, que le passage doit être géré d'une façon politique, ça c'est clair. Que les radios puissent avoir accès à leur multiplex, c'est aussi clair, et nous le demandons, parce que du moment où les multiplex sont dans les mains des compagnies privées, ça peut être garanti aujourd'hui, ça ne le sera pas demain. La question de la couverture, et je rebondis de nouveau sur ce que disait Marcel, il y a déjà des techniques comme ça. Il y a la technique du local windowing, on ne va pas maintenant rentrer dans des choses très particulières, mais qui permet d'avoir des décrochages très locaux, même sur une couverture large. Ce qui veut dire que, par exemple, si une radio 48 FM se mutualise avec d'autres radios et aura une couverture très large, à un certain moment, 48 FM pourra récupérer son territoire et parmi le local windowing être de nouveau la radio de proximité qu'elle a toujours été. Dernière chose, faisons une réflexion sur ce que c'est la proximité. Encore une fois, je pense que l'exemple de l'Irlande et les bonnes pratiques irlandaises sont un exemple pour tous, l'idée d'avoir différents studios. Mais qu'est-ce que la proximité dans une ville comme Rome, qui fait 4 millions d'habitants, sur une ville comme Paris, qui en fait 8 millions ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'une radio associative à Paris pourrait tout simplement se permettre le luxe d'émettre sur 3 quartiers ? Et quand moi je pense à une lutte contre la marginalité, moi je le vois aussi dans ce sens. Pourquoi Énergie doit avoir accès à toute la ville et moi, radio de proximité, je dois me limiter à 3 quartiers. Ma lutte contre la marginalité, c'est aussi la lutte contre la marginalisation. Merci. Je m'excuse, hein, mais c'est un thème très passionnant. Donc,
Donc on va avoir une question de Pierre Hameau de Radio Salamandre.
Moi, je suis un peu inquiet quand on parle du numérique. Nous sommes dans une zone rurale, quand je dis rurale, mais vraiment rurale. Qu'est-ce qu'on va devenir avec le numérique ? La plupart des gens, oui, mais c'est comme ça. Donc nous, on va disparaître. Il y en a d'autres radios qui vont disparaître. Tout à l'heure, j'ai entendu monsieur de France Inter parler de quelque chose. Moi, à côté de nous, il y a deux radios qui ont disparu il n'y a pas longtemps. La dernière, c'est Onoa Emery, qui se trouve à peine à 20 km de chez nous, pour les mêmes raisons des difficultés qu'ils ont. Donc imaginez... Imaginez qu'une radio qui se trouve dans une zone rurale, la plus grande ville qui se trouve dans notre zone, qui peuvent nous capter, elle fait à peine 3000 habitants. Alors nous, on va disparaître et toute notre... avec le DAB, je me vois très mal comment on peut installer un système où on se trouve... Charleroi se trouve à 26 km. La ville la plus proche de chez nous, c'est Maubeuge, à 19 km, mais de l'autre côté de la frontière. Donc vous imaginez ce que ça va être ?
Certainement.
Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis un peu inquiet.
Certainement, le DRM, c'est plus approprié dans ce cas-là, hein, avec une couverture plus limitée. Certainement, vous pourrez avoir une zone de couverture un peu plus large, et probablement aussi d'une façon... De toute façon, les radios sont mortes même sur l'FM. Donc je ne vois pas pourquoi vous vous préoccupez si les radios vont mourir sur le numérique. Vous venez de me dire qu'il y en a deux qui sont morts sur l'FM. Je le fais d'une façon un peu provocatoire, oui. Mais je veux dire, pourquoi se préoccuper de la mort des radios sur le numérique si elles meurent en FM ?
Peter De Witt demandait la parole.
Yes.
Oui. Non, et on garde la bande FM et je vous inviterai, j'inviterai les autorités également à le DRM+, à prendre le DRM+ au sérieux, beaucoup plus au sérieux. Il n'y avait pas de récepteur DAB+ il y a 2 ans non plus. Ça change. C'est de toute façon appuyé par de grosses entreprises qui sont en... Il y a des négociations qui sont en cours avec des Apple, Nokia, pour le DAB+. Également, il y a pas mal d'intérêt aussi à intégrer des récepteurs radio plutôt que des récepteurs radio IP. Et c'est très, très important, justement, que l'industrie du téléphone puisse intégrer également ces toutes petites puces multiplateformes qui peuvent recevoir le DRM, DAB, DAB, DAB+, et l'analogique, et les ondes courtes, et les ondes longues. Les antennes sont de toute façon là, ils peuvent l'intégrer dans la téléphonie mobile, ce qui représenterait une très bonne solution pour tout le monde. Mais pour ce faire, il faut que les gouvernements, que les autorités forcent justement l'industrie à adopter des normes multiples.
Je pense que ça date d'il y a presque 10 ans, le PSTN, dans lequel on recommande une puce multistandard, DRM+, DAB+. Je pense que du point de vue du régulateur, c'est un message qui a été relayé. Maintenant, le régulateur a des pouvoirs limités, comme vous le savez. Je ne sais pas s'il y a encore des questions.
Don't underestimate your power.
Ne sous-estimez pas votre pouvoir.
S'il y a plus de questions, je vais demander à Florence de venir faire les conclusions de cette deuxième journée de colloque.